Chapitre 42. Les membres de la cellule d'enquête ont éprouvé le besoin de se réunir. Mais aucun ne pouvait se résoudre à retourner à la NOA après la morne réunion de la veille. L'idée même leur donnait l'impression d'être des insectes coincés sous une plaque de verre. Ils ont donc décidé de se retrouver chez l'un d'entre eux, et le choix s'est porté sur Peter, qui vit à Lila Essingen. Saga se gare dans une montée devant un immeuble des années 1930. La façade ocre est en mauvais état, la peinture s'écaille par endroits sous les balcons. Une poubelle à moitié éventrée déborde de sacs à crottes nouées. Elle se dirige vers la porte en chêne laquée, compose le code, monte l'escalier jusqu'au deuxième étage et appuie sur la sonnette. Peter lui ouvre et la fait entrer. Sa chemise en flanelle gris foncé pend sur son jean délavé. Il y a 12 ans, c'était un homme musclé qui se rasait le crâne pour cacher sa calvitie naissante et qui utilisait un jargon sexiste. Aujourd'hui, il est âgé de 47 ans. Il est divorcé et n'est pas monté en grade. Il a cessé de faire du sport et pèse un peu plus chaque année. Il met en marche la cafetière dans la cuisine et prend 2 chaises qu'il pose dans le salon. Dans la lumière crue de l'après-midi, des trous de clous sont visibles un peu partout dans le plancher, causés par le retrait d'un vieux lino. « Quand les garçons viennent ici, je dors sur le canapé », explique-t-il. « Ils ont quel âge ?» Le temps passe vite. Milo a 16 ans, il va entrer en première. Et Nelson en a 14. Ils m'ont un peu dépassé tous les deux, dit-il en souriant et en montrant un décimètre entre son pouce et son index. Ils sont là 1 semaine sur 2? Malheureusement, peu de choses se passent comme on le souhaiterait, soupire-t-il en s'asseyant sur le canapé. Saga tourne la tête vers la fenêtre. Un cactus est posé sur le rebord en pierre noire. Les stores sont relevés et les cordons décolorés sont emmêlés. « Je sais, » dit-elle. On sonne à la porte. Saga va dans l'entrée ouvrir à Greta et Manvir. Ils n'ont même pas le temps de se débarrasser de leur manteau que Juna les rejoint. Peter pose une boîte de biscuits sur la table basse, va chercher la cafetière dans la cuisine et remplit les tasses. « Toi aussi, tu t'es brossé les dents ?» demande Peter à Juna quand il se penche vers lui. Ni Saga, ni Juna ne prennent la peine d'expliquer l'origine de l'odeur de menthol lorsqu'ils racontent leur visite à l'Office national de médecine légale. L'atmosphère devient pesante, et personne n'a rien à ajouter. Le schéma est identique à celui du meurtre précédent. Manvir pose sa tasse sur la soucoupe, plisse son front charnu, et regarde chacun des membres du groupe. « Jusqu'à présent, nous avons perdu tous les matchs. Nous devrons vivre avec ça pour le restant de nos jours, mais là, c'est trop !» rugit-il. « Il faut renverser la situation. Ça se rapproche de plus en plus. La prochaine victime pourrait très bien être l'un d'entre nous. » Jusqu'à présent, je pensais que le prédateur choisissait ses victimes pour me mettre la pression, explique Saga. Il a suivi scrupuleusement son plan. Tout ce qu'il a prédit s'est produit. C'est comme une horloge qu'on ne peut pas arrêter. Mais on ne peut pas penser comme ça, l'interrompt Greta. Mais aujourd'hui, Juna a fait une remarque très intéressante, poursuit-elle. Si tout ce que dit le prédateur est vrai, alors on devrait se demander pourquoi je suis la seule à pouvoir l'arrêter.
Et comment ? Ajoute Juna. J'ai juste interprété ça comme s'il avait choisi Saga pour une raison quelconque, dit Peter en se passant la main sur sa barbe.
Et petit à petit, il a commencé à faire monter les enchères en rendant la chasse de plus en plus personnelle pour elle. Je crois que nous avons tous réfléchi comme ça. Mais il y a peut-être une raison très concrète qui fait que je suis la seule à pouvoir l'arrêter.
Suivons cette idée. « Qu'est-ce que tu as de spécial ?» demande Manvir. « Qu'est-ce que Saga a de vraiment spécial ?»«
Elle a travaillé pour la CEPO pendant de nombreuses années, » commence Peter. Elle est belle, ajoute Greta.
Aucun autre officier de police n'a subi autant de bouleversements dans sa vie personnelle à cause d'une affaire qu'elle,
dit Juna. Dans ma famille, il y a des antécédents de maladie mentale, précise Saga d'une voix à peine audible.
Tu as une source secrète qui te communique des informations,
poursuit Manvir pensivement. C'est vrai ? Demande Greta. Oui, c'est vrai.
Ta source pourrait-elle être la raison pour laquelle tu es la seule à pouvoir arrêter le tueur ?
Non, je ne crois vraiment pas.
Autre chose ? Demande Manvir. Elle a survécu à ses rencontres avec Yurek,
dit Juna. Ça, je n'en sais rien,
marmonne-t-elle.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Demande Greta en souriant.
Je suis tombée dans une grave dépression après avoir perdu ma sœur, répond-elle en blêmissant. Je ne supportais pas l'idée qu'elle ait été seule et apeurée durant les derniers jours de sa vie.
Valeria était là tout le temps. Elle lui parlait.
Tente de la réconforter, Juna. Valeria, arrête,
grogne-t-elle.
Je dis juste que... Putain, qu'est-ce qu'elle a fait ?
Crie Saga. Elle lui a parlé, elle l'a calmée.
Elle l'a calmée ? Jusqu'à ce qu'elle meure ? Elle aurait pu sauver Pellerina si elle avait juste...
Je crois qu'elle a essayé,
l'interrompt-il vivement. Elle était avec elle, putain. Elle n'a pas suffisamment essayé,
fulmine Saga en se levant du canapé.
Ma sœur est morte. Mais Valeria est vivante. Ma sœur est dans une putain de tombe. Il ne reste plus d'elle que quelques os enterrés.
Tu es consciente que Valeria était aussi une victime,
répond-il calmement. Comme toi, n'est-ce pas ?
Tout le monde est une victime.
Tout le monde a eu des moments difficiles. Va te faire foutre.
Saga quitte la pièce et sort en claquant la porte derrière elle.
Juna se lève et se dirige lentement vers le balcon que Peter partage avec son voisin.
Il s'appuie sur la cloison en tôle ondulée et regarde la supérette au coin de la rue. Des affiches annoncent des promotions sur divers produits alimentaires.
Juna sent l'odeur de vieux mégots qui se dégage d'une boîte de conserve posée au sol et se souvient soudain de la fumerie d'opium chez Layla. La vapeur chaude emplissait ses poumons et ses pensées s'écoulaient comme l'eau d'une rivière autour de rochers, sous des branches suspendues. Le pendentif en argent de Valeria lui revient soudain en mémoire, et aussitôt, il retrouve l'intuition qu'il avait perdue. Il se précipite dans le salon. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'enquiert Greta en voyant l'expression de son visage.
« La liste de Saga, la liste alternative des tueurs en série qui pouvaient intéresser Yurek Walter. Ce n'est qu'une pensée. Mais Jacob Fauster, Maître Fauster, était appelé l'orfèvre de Berlin par les médias.
Je savais pas, dit Greta. Qu'est-ce qui m'échappe ? Demande Peter. Tu fais un lien entre le surnom de Fauster, les balles en argent et les figurines en étain ?
Demande Greta. On essaie simplement de trouver quelque chose sur le prédateur qui ne nous soit pas révélé intentionnellement, qui ne fasse pas partie de son plan, de son jeu,
tente d'expliquer Juna.
Du vivant de Yurek. Je n'ai jamais enquêté sur Fauster parce qu'il était en prison depuis des décennies et qu'il n'a jamais bénéficié d'une seule permission de sortie.
Mais Yurek a pu lui rendre visite. Et le prédateur aussi,
avance Greta.
Pourquoi on l'appelait l'orfèvre ? Interroge Manvir.
Il brûlait les yeux de ses victimes avec de l'argent liquide et les déposait sur des voies ferrées à Berlin,
répond Juna.
Mais l'argent et les figurines en étain,
dit Manvir, d'un air sceptique.
C'est beaucoup trop tiré par les cheveux,
objecte Peter.
Oui, c'est trop faible,
soupire Manvir.
Continuons plutôt avec la logique du prédateur concernant le nom sur la carte postale numéro 2,
l'interrompt Juna.
C'est... Chesu Fadvarok,
confirme Peter.
C'est l'anagramme de Yakov Fauster. Oh merde, murmure Peter.
Dans quelle prison se trouve Fauster ?
Demande Greta. À Santa Fu, répond Juna. À Fuhlsbüttel, c'est-à-dire près de Hambourg, précisément de Vire. Il faut que j'aille le voir, conclut Juna. Et il se lève.